Bonjour, Françoise Tressart et la belle équipe à l'affiche une supposition et l'allocution du dire comme du nouveau dictionnaire pour saluer certaines entrées. Hervé Le Tellier.
Nous avons aussi le plaisir d'accueillir mémériser.
Ah
oui, mémériser. Qui signifie donner une allure de mémère à quelqu'un.
Ah non. Ouais.
Pardon, madame Stalactite. Ah non, je suis confus, il n'y a pas pépérisé. Non.
Pour le petit rimailleur illustré, Jacques Vallée et Dominique Muller. Ensuite, tout Barthe en publipapoucité. Une histoire de cloche. Et les rimes de hasard pour des poèmes à notre façon, avec Odile Conseil, inspiré ou pas par Errol Flynn.
Curieusement non, il m'a plutôt gêné cet Errol Flynn.
Ah bon ?
Dieu sait pourtant que j'aime ce pirate noir aussi, j'ai l'affiche chez moi. Bizarrement, c'est Volubilis. Je suis la première étonnée parce que si je rencontrais un Volubilis, je ne le reconnaîtrais pas.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h59. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Une émission à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. À réécouter 1000 jours sur notre page où vous pouvez déposer vos questions, demandes, essais sur les jeux papous, rubrique commentaires. Voilà, les papous du jour, c'est parti avec le jeu des chutes en calembour ou suppose que tu t'appelles. Au service, Eva Almassi, elle a imaginé un nom qu'elle prêtera au joueur de son choix, à qui elle racontera son histoire dont la chute sera un jeu de mots sur le dit nom, un calembour culturel, titre de film, de roman, de tableau, citation. À elle de voir. À qui adressez-vous cette histoire, Eva Almassi ?
Ça s'adresse à Patrice, s'il accepte.
Ah oui, avec plaisir, ah, oui.
Pour me prêter oreille.
J'en prête une.
Patrice, suppose que tu t'appelles Men.
Men ?
Oui, pas man au sens de hey man, hey mon gars, ou alors il faut lorgner du côté de Men in Black. Car mon men, à moi, c'est-à-dire toi, ce serait aussi une histoire d'habit noir et d'amnésie, tout comme dans le film, la série Men in Black, le personnage joué par Will Smith, qui va flasher les yeux de ceux qui ont vu quelque chose qu'il ne fallait pas. Et sur le champ, tout le monde
la série.
Et sur le champ, tout le monde devient instantanément amnésique et oublie tout. Sauf que, mon cher Men, oui, dans mon histoire, qui est très autobiographique, Will Smith s'appelle Francis Huster. Oh la vache, dis-tu.
Oui, oh la vache.
Je t'explique. Les acteurs étrangers, les stars, on peut les admirer, les adorer. On ne les connaît pas intimement, on peut s'identifier à leur personnage. Ainsi, j'ai vu jadis en Hongrie un vieux film français, La faute de l'abbé Mouret. Et ça m'a tellement touchée, Men, tu n'imagines pas. J'ai pleuré. À mon grand malheur, j'ai appris tout récemment que c'est Francis Huster qui jouait dans mon film, et notamment des scènes où il était tout nu. Tu comprends mieux mon désarroi.
Oui.
Un jeune acteur inconnu, étranger, un French lover, tout nu. Je regarde. Mais Francis Huster qui se dessape, je détourne le regard. Pour rien au monde, je veux voir ça. Il y a une trop grande familiarité. Ce serait incestueux. Le curé défroqué serait comme un père pour moi. Tandis que la fille, là, je vous pose une colle.
Oui.
Tandis que la fille qui jouait Albine, elle reste mystérieuse. Tout le monde a oublié Gillian Hills. Ah ben la preuve.
Ah oui.
Sauf quand elle chante Zoubi zoubi zouzou la 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 I love you. Une belle blonde, je dirais même plus une bombe, et qui disparaît du jour au lendemain. Cher Men, ça te paraît pas louche hein?
Ben un peu.
La faute de l'abbé Mouret est la dernière apparition de Gillian Hills au cinéma. Alors que ça n'est qu'un début pour Francis Huster. Or, qu'est-ce qu'il fait, le fameux abbé, dans ce zoo-là ? L'abbé humaine. La bête humaine.
La belle
et c'est ainsi qu'un Zola en cache un autre.
Oh là là.
Ah, ah ça c'est culturel.
Ah oui. Ah oui.
Place aux classes de rhétorique. Pour une petite séance d'entraînement à la prise de parole en public, deux orateurs, Hervé Le Tellier et Val Massy, ils pratiquent sur un sujet imaginé par le premier. Et nous, nous sommes tous concernés par son allocution parce que nous serons... Chut ! Il va tout nous dire, Hervé Le Tellier, les circonstances et il fait les présentations.
Eh bien, je suis responsable... chez une grande société de dictionnaires, de l'accueil des nouveaux mots. Et je reçois les mots anciens et les mots nouveaux pour leur annoncer les départs, car il y en a, hélas, et puis également les arrivées. Et donc, tout le monde est là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Je vous ai réunis ici afin de vous annoncer une nouvelle d'importance, l'arrivée, comme chaque année, de nouveaux pensionnaires et, comme chaque année, j'aimerais que vous les accueilliez avec bienveillance. Et j'irai jusqu'à dire avec enthousiasme. Je ne vais pas vous les présenter un par un, quoique. Je sais que vous aurez beaucoup de temps pour faire connaissance, mais je voudrais tout de même souhaiter la bienvenue à Bolos, à Selfie et à Tuto. Je vous demande de vous taire. Moi aussi, je peux avoir des réticences. Et Dieu sait si j'en ai, mais ce n'est pas moi qui fabrique les mots, je ne fais que les accepter, sous la pression de la société. Je sais que, pour Selfie, nos amis québécois proposaient égo-portrait. Oui, je sais, mais qui suis-je franchement, Madame Gravillon, hein? Ça n'a pas pris. C'est comme ça.
Toujours le même.
Oui, Monsieur Self-Service, vous vous entendrez très bien. Voilà, elle sera juste à côté de vous, vous serez donc sa camarade d'intronisation dans le groupe. Bienvenue aussi à Déconnade, substantif féminin que sincèrement et sans déconner, si je puis me permettre l'expression, j'étais persuadé d'avoir déjà croisé dans nos pages, mais non, mais on peut se tromper. Bonjour madame, mettez-vous à côté de monsieur Déconnage qui vous guidera jusqu'à votre page. Je ne suis pas mécontent non plus, je dois le dire, de faire entrer parmi nous Crudivore.
Ça,
adjectif
moi.
Et substantif, mais oui, que je vous demande d'applaudir.
Ah, merci, merci.
Ainsi que
merci.
Son camarade végan, qui atteste d'une évolution de nos pratiques alimentaires et de toute la société d'ailleurs. Nous accueillons aussi l'adjectif zénifiant, qui me fait un petit peu penser à notre ami lubrifiant, mais après tout, chacun son imaginaire, hein, n'est-ce pas? Monsieur Zénifiant, vous irez vous placer entre Zinde et Zénith, s'il vous plaît.
Oui.
Madame Arachnide, que veut dire Zinde?
Eh oui, bonne question.
Eh bien, c'est un adjectif. Et encore? Eh bien, c'est un synonyme d'avestique, qui est de la langue de l'Avesta. Bon, c'est un recueil de textes sacrés de la religion mazdéenne de l'Iran antique. Hein, ça suffit. Non, monsieur reliquaire, je suis désolé, on ne peut pas le chasser. Il n'y a rien pour le remplacer. C'est comme ça. Un peu d'élégance, s'il vous plaît. Un peu d'élégance. Voilà. Continuons. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir... Mémériser.
Ah
oui, mémériser. Qui signifie donner une allure de mémère à quelqu'un.
Ah non.
Ouais. Pardon, madame stalactite.
Non.
Je vérifie. Ah non, je suis confus, il n'y a pas pépériser. Non. Non, c'est machiste. Oui, j'en conviens, mais je suis pour rien. Il y a juste mémériser, j'enregistre, c'est tout. Bon alors, vapoté, zadiste et wakame, vous vous mettez par là. On viendra vous chercher par ordre alphabétique. Bon, c'est bien, merci. Évidemment, il y a quelques départs. Eh oui, 5 cette année, c'est peu, mais je voudrais tout de même dire adieu à Nick Tabat.
Non.
Eh oui, j'ai oublié moi-même ce que vous vouliez dire. Et donc c'est sans regret que nous nous séparons, Monsieur Nick Tabat. Ou bah non, je suis désolé, non c'est sans appel. Hein, non.
Vous avez injuste.
Non, vous avez été utilisé
cruel.
une fois au Scrabble. Le 23 novembre, dans une partie au Touquet.
Une partie gagnante.
Le type voulait écrire Nick Talop et il a tenté le coup avec les lettres dont il disposait. Bon, nous quittons également avec tristesse Dondaine. Pas une seule fois prononcée cette année, ni même depuis 3 ans. Et oui, je sais, dont la disparition, je crois pouvoir parler ici pour tous les présents, ne causera aucun dommage.
Dondaine part, mais Dindon reste. de la farce.
Voilà, c'est pour ça que Mlle Dondaine doit partir. C'est pour ce genre de petites blagues qu'elle fait régulièrement, qui, bon, en dehors du fait qu'elle n'est jamais utilisée, en plus, elle intervient toujours à tort et à travers. Mme Dondaine l'a portée par là. Voilà, merci beaucoup.
Que je vais claquer de ce
claquer,
pas.
Claquer, Mme Dondaine, claquer. Je regrette tout de même le départ de Botoxé, mais dur à l'ex, c'est de l'ex, comme disent les anciens. Je pense aussi à Shintok qui nous quitte. Oh, je sais que c'est sans doute un progrès, vu votre caractère péjoratif. Si, je vous assure, vous êtes péjoratif. Mais je parle ici pour vos voisins et amis, le verbe chiner et le nom commun chineur, dont je vois bien la tristesse. Eh oui. Ben, au revoir aussi, fracturation, hein, sans rancune.
Au revoir.
Monsieur computer, bah ouais, bah désolé, mais ordinateur l'emporte, hein. C'est la, bah, bah c'est
oui,
pas
bah,
la
fait,
peine, oui, bah c'est pas
ça,
la peine de faire cette tête là, c'est la vie. C'est la vie. Bon, les choses pénibles maintenant. Ouais.
Ah, pire bon. Que ça.
Bah oui, je sais que certains d'entre vous ont fait des pétitions pour la suppression de LOL.
Parfaitement.
Ouais, ce n'est pas la peine de regarder ailleurs, mademoiselle Cariatide. Je sais bien que vous en êtes à l'origine, mais j'ai le regret de vous dire que quand on entre chez nous, dans bien des cas, on y reste. Voilà, donc j'aimerais que ces petites jacqueries mesquines prennent fin. C'est aussi à vous que je m'adresse, mademoiselle Abstraction. Non,
c'est intolérable.
On ne chassera pas monsieur Cybersex. Non. Oh. Je suis désolé, voilà, j'en ai fini. Vous êtes prié d'aider vos camarades à trouver leur nouvelle place et à l'année prochaine. Ah, j'allais oublier. Mademoiselle Panna Cotta, vous allez bouger un petit peu. Vous allez vous mettre entre Madame Panacée et Monsieur Panari, parce que maintenant vous êtes en un seul mot. Alors c'est comme ça.
Oh.
Désolé. Merci.
On est obligé d'applaudir, non?
Ah, je vois près de la porte, mademoiselle, vous êtes un mot, non?
Moi, je suis un mot qui me lève dans l'assistance pour prendre la parole.
Et oui, vous êtes quel mot? Un mot qui reste, un mot qui sort?
Un mot qui n'y est même pas.
Oh. On l'a laissé rentrer.
Alors,
je ne sais pas ce que fait la sécurité. Mais,
non, mais la porte était ouverte.
Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous lui dites on peut dire le dire comme, hein, en quelque sorte.
Monsieur le directeur, je suis un mot que vous ne connaissez pas. Un mot pourtant composé et excusez du peu que des racines grecques que vous ignorez délibérément. Je suis bibliomancie.
Ah oui.
Et je ne suis pas que le mot. Je suis la chose, la pratique. Je suis le passé, l'avenir que je prédis avec exactitude. Avec moi, on ouvre un livre, un dictionnaire. Tenez, puisque je l'ai sous la main, le vôtre. En l'occurrence, on ouvre au hasard et avec l'index de la main gauche, on désigne un mot. Voilà de quoi lire en toutes lettres ce qui arrivera sûrement. Encore une fois, le mot et la chose, c'est tout un. Quand vous supprimez des mots, vous effacez des pans entiers d'avenir, vous jonglez avec le destin. Tenez! Je le fais pour vous. Je vous ouvre page 903, index gauche, sanction. C'est authentique, j'ai fait tous les tirages. Sanction. Monsieur, vous serez puni. Vos actes vous poursuivront sur 3 générations. À côté du triste verbe mémériser, qui nous humilie, nous autres femmes, il me reste fort heureusement mesmérisme. J'aime le surnaturel, l'hypnotisme, les tables qui tournent. Je vous vois, je vous sens.
Je pense qu'on ne laisse pas rentrer.
Non, mais je pense que vous n'avez pas le niveau.
Je vous vois, je vous sens, je vous connais. Tenez, le dico s'ouvre page 494. H comme hécatombe. Vous êtes un fossoyeur, monsieur. Ça ne s'invente pas. Les yeux fermés, j'y vois encore. Eh bien, c'est cirque, au sens figuré familier. Quel cirque ? Désordre et agitation. Le mot et la chose. Après LOL, qui vous fait encore vous rire.
Oh non.
Comme il est bon public.
Non.
Il y a les Lolita, mots bien jeunes pour un si gros dictionnaire dégueulasse. N'avez-vous pas honte? Je vous fais un dernier tirage de ce tarot divinatoire.
Faites-moi un battage aussi après.
Qui sont les pages que vous éditez. Commerce, j'ai pointé commerce, établissement commercial, fonds de commerce, tout est dit, vous faites commerce de mots. et tous ceux qui dorénavant nous manquent. Wittgenstein l'a dit, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Je me tais à présent.
Ah.
Bon, elle est sympathique, Biblium aussi. Hein.
Non, elle n'est pas sympathique. Elle est totalement... Non, non. En fait, elle se trouve juste un peu à l'ouest, vous voyez.
Oui,
voilà, un tout petit peu. Bon.
Mais vous l'avez refusé beaucoup, ça fait des
chaque
années,
année,
c'est ça.
Chaque année, on la refuse. Oui. Chaque année. Mais vous comprenez pourquoi?
Peut-être ce serait plus simple de l'introduire dans le dictionnaire.
Ah,
moi,
je
ne connais
pas une femme pareille. Oh.
Chaque non. année, je reviendrai. Chaque oh. année, je serai là.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall. Cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use? Wow! Of falling in love.
Björk, it's all so quiet.
Este programa tiene pajaritos en la cabeza y es en Francia Cultura.
Absolument, Ricardo. Dans les vrais dictionnaires, et comme vient de le raconter Hervé Le Tellier, les mots entrent et sortent au gré de l'époque et des caprices des rédacteurs. Fini les mots désuets, vive les mots modes. Dans notre petit Rimailleur illustré, qui est un dictionnaire en vers de la langue, nous en sommes encore aux entrées. Déjà rédigé les définitions de 100 ou 120, voire 150 mots sous forme de poèmes à dire ou à chanter, il reste du boulot. Les deux derniers mots à faire leur entrée pour 2015 seront le verbe « sauter » et le substantif « liaison ». Les rédacteurs du jour, Jacques Vallée et Dominique Muller, deux fins faiseurs de vers, amoureux des rimes riches. C'est à vous, Jacques Vallée, pour « sauter », un mot qui sent le jeu mais aussi la douleur. Comment le traitez-vous ?
J'ai essayé de lui donner du souffle, j'ai pas fait de rime, j'ai fait un poème élégiaque, un peu, je dirais pas la Claudel, parce que quand même, faut pas exagérer, mais peut-être en pensant à Whitman, à ces gens-là qui avaient du souffle.
Walt Whitman.
Mais,
Walt
oui.
Whitman, carrément.
Mais,
pas
Jean-Pierre, oui, non, mais je me posais la question pour être sûr, justement.
En français, tout de même, non?
Oui, français, mais bien loin, naturellement, de ses grands maîtres.
D'accord.
Et est-ce qu'on va sentir tout le sport qu'il y a derrière, quand même, à sauter?
Ben, vous le verrez.
Hein, il faut qu'il y ait du rythme dans le sauter. Dominique Muller, vous allez contrôler Jacques Vallée
bien
sur
sûr.
Le verbe sauter.
Moi, je pense immédiatement à la nourriture, à des pommes de terre sautées.
Oh, évidemment.
Plus qu'à
ça, vous allez être déçus.
Oui,
hein, moi, c'est...
oui le saut en hauteur, très peu pour vous. Allez, on y va, Jacques.
Je chante le corps élastique. À quitter le sol, un instant, abandonner tout appui comme un oiseau qui prend son vol, et franchir un espace, et franchir un obstacle, s'élancer, courir, et sauter, 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 sauter en l'air, haut. Et si le saut ne révélait pas l'âme, que serait l'âme? J'ai vu la perfection du saut lors d'une compétition olympique que retransmettait la télévision. Une hongroise, aux allures de Lorelai, ses yeux couleur de rhin, ses cheveux de soleil, arrivant de dos à l'obstacle et passant de dos au-dessus de la barre, les deux jambes s'élevant au dernier moment pour rejoindre le cœur. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés, le cœur qui semblait attendre, suspendu pour l'éternité dans un halo de lumière. Il n'est point question d'embellir ce simple Fosbury Flop, mais de fixer une image afin que chacun prenne conscience de sa beauté. Et le saut peut avoir légèreté et allégresse en restant plus terre à terre. Quand l'un gambade avec pétulance pour dire son aise, que l'autre s'amuse à cloche-pied et que cette fillette joue à la marelle avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc. Qu'un autre trépigne, fait des cabrioles, qu'un autre encore saute à la corde ou acrobatique, se met sur ses mains. Oui, il y a quelque chose à rester, à les regarder, qui contente l'âme tout à fait. Et sauter, c'est aussi tomber d'un lieu élevé, se jeter dans le vide, d'une fenêtre, d'un rocher, d'un avion. Mais dans ce cas, mieux vaut avoir un ange gardien pour cette possession du ciel, cette union du cœur et de l'azur dans des mers éclatantes de sud qui les inondent. Maintenant, voilà l'élégance de la danse, bras, aisselles, avant-bras, poignets, ampleur de la poitrine, puissant jeu des cuisses, fibres de la jambe, pieds pointes, les pieds enfin quittent terre. Le danseur apporte le bon. Paul Claudel, à propos de Nijinsky, ce n'est plus qu'un tremplin qu'il foule triomphalement sous ses pieds. Il retombe à la manière d'un roi qui descend. Et de nouveau, il s'élance comme un aigle et comme une flèche décochée par sa propre arbalète. Mais je crois que sauter de son lit n'est pas moindre que le saut de l'ange. Oh. Et sauter sur ses pieds est tout aussi parfait. Et sauter à terre, et sauter sur un cheval ou sur un vélo, et sauter au cou de quelqu'un pour l'embrasser est un chef-d'œuvre. Et sauter aux yeux, et sursauter, tressauter sans l'ornement d'une vie. Et faire sauter un bouchon est déjà toute une fête. J'ai incorporé en moi les choses que l'on déplace, qu'on projette soudainement, brusquement, billes de billard, boutons, bandes de journaux, et même certaines têtes qui ne me reviennent pas. Oh, une heure de folie, de joie, allez-y et que ça saute. Oh, heure furieuse, oh, sans limite, oh, épuisez la coupe de tout ce qui explose, tout ce qui vole en éclats, tout ce qui se saborde, oh, franchir les obstacles, les murs, les fossés, les précipices, oh, fondre les plombs, se faire sauter le caisson, sauter le pas, oh, sauter de joie.
C'est somptueux.
C'est enthousiasmant.
Ah oui, 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 on a envie de sauter.
De joie.
De joie, ah oui, oui, en vous tenant la main et...
Je pense que c'est pourquoi Jacques n'a pas parlé de ces sens si triviaux qui est sauter quelqu'un.
Ah oui,
je vous ai laissé tous ces sens.
Tu l'as sauté, elle se fait sauter par son patron. C'est vraiment tellement un cliché. Une fois encore, je m'insurge contre ce dictionnaire.
C'était signé ?
Non, justement. En plus de ça, c'est de la délation.
Non, mais
c'était un chef-d'œuvre.
Et puis dans la parfaite mixité, il y avait la sauteuse hongroise et le danseur russe, vous voyez.
Oui, il aurait pu y avoir la danseuse Aurélie Dupont aussi, vous y avez
et puis,
pensé.
Et cette phrase qui deviendra une citation dans le futur dictionnaire, si le saut ne révélait pas l'âme, que serait l'âme ? Quand j'entends ça, moi, j'ai envie de lui sauter dans les bras.
Beaucoup.
Ben, allez-y. Ah oui, non, Jacques, c'est trop beau.
Bon, on est sous le coup, hein.
Ah oui.
Absolument sous le coup. Dominique Muller, vous avez tenté de contrôler. Jacques Vallée, il est incontrôlable de toute façon, cette heure.
Au contraire, en plus, c'était d'une précision anoblie par la poésie.
Voilà.
C'était merveilleux.
Et vous avez travaillé sur le mot liaison.
Oui.
Hein? C'est beau, c'est joli.
C'est très très beau. Oui. Patrice Minet, vous voulez bien vous intéresser à la liaison de Dominique ?
Avec plaisir,
ouais.
Même enthousiasme.
Mais oui.
Liaison.
C'est tout un programme, je vous avertis. Il y en a de toutes.
Halluciné, loué.
Et oui, parce qu'il y a plein de sens au mot liaison.
Oui, et en même temps, c'est toujours le même.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
C'est vrai, vous êtes à la liaison.
Oui, c'est entre lier et liaisonné.
Voilà.
Étonnant, hein.
Ça se présente comment, Dominique ?
En heptasyllabe.
Oui, hepta, c'est sept, oui.
Et je l'ai un peu copié sur le poème d'Éluard, « J'écris ton nom, liberté ».
Oui. Wow.
Parce que pour moi, c'était le contraire. Donc, oui. Sur les choses assemblées, sur ma table de cuisine, sur le mur à maçonner, sur la soudure d'usine, j'écris ton nom. Sur Gervaise et sa blanquette, sur la fin des haricots, sur Zola et sur Colette, sur les couacs mal à propos, j'écris ton nom. Sur deux lettres sans hiatus, sur le son tenu en laisse, sur la note en long motus, sur les cuirs, les pataquès, j'écris ton nom. Sur les pièces maritimes, sur les signes de graphie, sur le plomb, le zinc intime, sur le joint qui calcifie, j'écris ton nom. Sur la cause aboutissant, sur le réseau et ses fils, sur Pascal Roseau pensant, sur Rousseau et sur Émile, j'écris ton nom. Sur un rapport de logique, sur mille correspondances, sur le prince et son moujik, sur les simples cohérences, j'écris ton nom. Sur l'union des particules, sur le carbone-carbone, sur l'atome en molécules, sur le covalent synchrone, j'écris ton nom. Sur l'inconscient de Freud, sur le rêve où il s'immisce, sur le Seigneur et ses leudes, sur Orphée et Eurydice, j'écris ton nom. Sur toutes les dépendances, sur l'amitié et le commerce, sur les louches accointances, sur la magouille perverse, j'écris ton nom. Sur l'agent de transmission, sur le feu d'Henri Barbus, sur l'officier en mission, sur les tranchées Rasibus, j'écris ton nom. Sur Saint-Ex, la Técoère, sur le rail, la poste à l'heure, sur Mermoz, l'air et la terre, sur l'allô téléphoneur, j'écris ton nom. Sur les chambres langoureuses, sur les amants aux yeux clos, sur les amours dangereuses, sur Chauderlo de la Clos, j'écris ton nom, liaison.
Ah, c'est très 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 ouais. Bien, oui.
Superbe.
Très séduisant comme poème. J'ai l'impression qu'elle a fait le tour.
Non, ah oui, Patrice largement, Binet. Oui.
Largement.
Ah oui, oui, c'est très très bien. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un mot qui vient de la maçonnerie.
Mais oui, que... oui, j'en ai passé très
oui,
étrange.
Oui, si on parle.
Mais
oui.
C'est quand on lit du ciment.
Voilà, c'est
par
quand
exemple.
On. Oui, oui. Quand on. Oui. En fait, ça sert à lier les
pierres. Les éléments entre eux. Voilà. Voilà. Ouais. En fait, c'est d'où le sens qui est au fond assez général et toujours le même.
Ouais.
Et j'ai mis Zola parce qu'il dit Gervaise liait sa blanquette ou je ne sais pas quoi.
Les rapports des effets aux causes dont nous n'apercevons pas la liaison. Ça, c'est Rousseau. Alors, je l'avais trouvé une assez marrante. Chateaubriand noua avec Fontane une première liaison qui se resserra et devint la plus étroite amitié.
C'est signé ?
Sainte-Beuve.
Ça aurait pu être signé Fontane lui-même.
En tout cas, on fait entrer le verbe sauter et le mot « liaison » dans notre dictionnaire.
Ça peut servir.
Très touchant.
Oui.
Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me,
I somehow knew that this had to be the winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings, these foolish things remind me of you. Gardenia perfume lingering on a pillow, while strawberries only 7 francs a kilo. Oh, how the ghost of you clings, these foolish things remind me of you, just you.
Le beau Brian Ferry, with Foolish Things. Et c'est l'heure de la page de Publipapoucité. Elle est signée Patrice Comeau. Il aime tous les jeux, Patrice. De mots, d'homophonie, de contrepaix, de signifiant, de signifié aussi. Philosophe de formation, Patrice Comeau, ne jamais l'oublier. Une Publipapoucité spéciale Barthes, avec aussi des rôles pour Eva Almassy, pour Lucas Fournier et des chansons pour Jeanne Carillon.
Je vous ai apporté des bonbons, car les fleurs sont périssables, puis les bonbons, c'est tellement bon.
La mythologie te branche, tu adores le Mars glacé, et t'annules l'acidulé signifiant de son patron, le Zeus accro à l'hydromel, qui harcèle le petit personnel de nymphes et déflore le faune.
Tu vas adorer le mythique bonbon Barthes au miel qui ne cesse de fondre sur ta langue maternelle.
Le Bounty t'a révolté? Tu préfères les casse-bonbons et Candy Crush? Tu es plus dialectique que diabétique?
Plonge dans un paquet de Barthes et découvre les vrais délices de la langue.
Tu aimes la chanson de Roland avec le défilé signifiant sa perte et l'abandon signifié par son corps aux pieds. Tu rêves de Saint-Barth, syntagme du paradigme de paradis, où la brise caraïbe te secoue le cocotier et où la langoustique te ravit la langue.
Deux raisons de choisir Roland Barthes, le confuseur de style.
Tu aimes les ballets russes, les danseurs au collant plein de signifiants, le lac des signifiés et les linguistes russes, les linguinés à l'arabiata, le cheveu sur la langue.
Alors, tu as le choix entre le parfait glacé à la vodka propre ou le sorbet Sorbonne à la Jacobson à consommer tous les deux au degré zéro.
Tu aimes les sucreries de toute forme et de tout style, le beau et le haribo et la bergamote de Nancy, Jean-Luc, les trix et les trilles de la piquichante, la structure du calisson, la sémiologie de la pâte de fruits, sans état d'âme, ni aspartame, sans hypoglycémie, ni hypotaxe.
Découvre la vaporeuse, barre ta papa, et là, mets ta langue dans le sucre candide.
Oui, c'est le berlingot linguistique, le caramel heuristique, la dragée haute ou basse, le mistral mythique, la sémiotique qui glisse au réglisse, que barre tabac.
Goûte aussi ces confiseries japonaises, mifig mishima. Ce sont des signes en pire, car le signifiant gélifié nippon se fait saquer.
Tu apprécies le jeu de go et de nougat, et surtout le zen et le zen. Cherche vite le nouveau paquet Mikado d'un kilo d'idéogrammes. Tu le trouveras dans ton hyper texte au rayon Barthes chocolaté ou Barthes céréales.
Pour un régime sans calories, Barthes, qui en fait des tartines, a créé la marmelade Bartleby. À la Melville sans glucose, le vrai degré zéro de la confiture.
Toi aussi, déguste ces fragments de petits fours savoureux, c'est l'embartement pour s'y taire, et choisis Barthes aux fraises ou Barthes à la crème, car quel que soit ton goût, Barthes t'atteint.
À croquer ou à sucer, Barthes, c'est Barthes.
Il nous a apporté du profond, parce que le style, c'est formidable, et le jargon, c'est tellement bon, bien que la parataxe soit imbitable, surtout dans ses cours, façon Sorbonne. Mais ses fragments, y a rien de plus bon.
À croquer ou à sucer, Barthes, c'est Barthes.
Vous écoutez des papous dans la tête sur France Culture. Au micro, François Strossard et la bande des papous du jour à suivre. Les gonfleurs de texte, rimes de hasard pour poèmes à notre façon, avec Odile Conseil et Jacques Vallée, ainsi que la critique des pots rimés par Patrick Beignet et Serge Joncourt. Donnez-leur une phrase, ils écriront des histoires. Eux, c'est Patrice Minet, Jean-Bernard Pouet et Patrick Beignet. Ils écriront l'histoire par gonflement successif, tout en respectant la place du premier mot et celle du dernier. Chacun glissant son imagination à l'intérieur de la phrase, pas de prolongation. Ce n'est pas un cadavre exquis. Et si chacun a son projet romanesque, quand il écrit, il doit cependant respecter l'ambiance et le style de l'histoire qui lui sont confiés. Voilà, Patrice Minet, premier de cordée, vous vous lancez avec une phrase que j'ai choisie tout spécialement pour vous. Elle vous plaît ?
Mais oui, ça me touche beaucoup, vous l'ayez choisie pour moi. Alors, le forgeron me donne la cloche, et après, je retourne chez le vieillard avec la cloche, lui et sa femme, du coup, sont surpris, et aussi très stupéfait.
Voilà, c'est une jolie phrase que vous ne connaissiez pas, Jacques Jouy, vous qui êtes en bout de course.
Je ne connaissais pas comme ça, en tout cas.
Non, est-ce que vous savez de qui est cette phrase ? Est-ce qu'elle vous évoque quelque chose ? Les Anglais diraient « ring a bell ».
Oui, « ring a bell ».
Mais sonne une cloche, justement.
Ça me « ring a bell », absolument, mais qui et quoi, non.
Non, vous ne savez pas. C'est une phrase d'un auteur que vous avez probablement tous lu pour un livre autour de cette table. Je pense à Amos Tutuola, Un ivrogne dans la brousse.
L'ivrogne dans la brousse. Ah, oui, c'est un très bon livre.
Voilà. Relisez-nous ça.
Alors, le forgeron me donne la cloche et après, je retourne chez le vieillard avec la cloche. Lui et sa femme, du coup, sont surpris et aussi très stupéfaits. Bon.
C'est assez nonsensique, non ? Vous ne saviez pas qu'il y avait une histoire d'ivrogne dans...
Non.
Sous cette phrase.
Il y a déjà du monde.
Il y a du monde. Alors... Vous aviez pour mission de doubler cette phrase en information, de l'enrichir avec naturellement un projet romanesque.
Oui.
Quel est-il ?
Eh bien, il y a du non-sens, mais il y a aussi quelque chose d'un peu enfantin dans la phrase.
Oui.
Et j'ai pensé, moi, à des romans ou des nouvelles de Marcel Aimé. C'est-à-dire, des fois, les enfants parlent un peu comme ça. Des fois, le narrateur qui met en scène des gens simples ou des enfants écrit aussi un petit peu comme ça.
Un peu comme dans Delphine et Marinette.
Comme dans les contes du chat perché. Voilà, donc ça aurait été, je pense, si j'avais eu à l'écrire, quelque chose dans ce goût-là.
Donc vous glissez votre imagination dans cette phrase d'Amos Tutuola.
Alors, le forgeron, tu te souviens de Gaspard, qui t'avait offert des chatons de sa portée, me donne la cloche, je t'explique tout de suite pourquoi. Et après, je retourne chez le vieillard, à l'époque, si tu t'en souviens, il était plus jeune qu'aujourd'hui, avec la cloche. Lui et sa femme, la Renaude, qu'on appelait la Renarde à cause de sa queue de cheval rousse, du coup, ils sont surpris et aussi très stupéfaits.
Bon, il y a une histoire, Jean-Bernard Pouy, qui se crée.
Une nous.
Absolument, donc vous la recevez. Comment, cette histoire ?
Ah, c'est une histoire de cloche.
très bien
je
vu.
Je crois quand même,
Et alors, vous n'aviez pas une idée du projet narratif un peu enfantin de Patrice Minet, mais vous n'avez pas eu besoin de lui demander pour continuer.
Enfantin, non, mais un peu pervers.
Oui.
Surtout de la part de Minet.
Ce n'est pas forcément contradictoire.
Non.
Non. Et vous continuez dans la même veine.
Je modèle le motif.
Oh, c'est très bien, c'est très élégant, oui.
Alors, le forgeron appelle son fils, tu te souviens de Gaspard, qui t'avait offert des chatons de sa portée. Gaspard, ce grand crétin, c'est lui qui avait scié la corde. Et c'est à cause de lui que notre abbé est décédé, la tête fracassée. Je t'explique. Donc il me donne la cloche, ne t'énerve pas, je t'explique tout de suite pourquoi. Et après, je retourne chez le vieillard. À l'époque, si je t'en souviens, il était plus jeune qu'aujourd'hui. Avec la cloche, bien sûr. De façon à ce que les gendarmes la trouvent chez lui. Chez lui et sa femme, la Renaude. Tout le monde savait que c'était la maîtresse du curé, la Renaude, qu'on appelait la Renarde, à cause de sa queue de cheval rousse. Le vieillard et sa femme, du coup, sachant très bien que tout le monde les déteste, sont surpris et aussi très stupéfaits.
Il se passe plein de choses, non, Gérard Mordillard ?
Ah oui, là, ça devient même assez compliqué. On est déjà dans une sorte de roman russe.
Puis c'est un peu... Oui, ah, vous diriez.
Ça, oui, c'est ça, oui.
C'est un peu sulfureux, l'abbé a une femme...
Ça va de soi.
Ça va de soi. Pas toujours. Vous pouvez nous rappeler la phrase de départ d'Amos Tutuola, Patrice Minet ?
Alors, oui, bien sûr. Alors, le forgeron me donne la cloche. Et après, je retourne chez le vieillard avec la cloche. Lui et sa femme, du coup, sont surpris et aussi très stupéfaits.
Voilà. Il y a moins d'innocence, évidemment, dans le texte de Jean-Bernard Pouy.
Il n'est pas innocent.
Non, c'est beaucoup plus grinçant.
J'ai perdu mon innocence.
Le texte français d'Amos Tutuola est de Raymond Queneau.
Oui, absolument. Merci de l'avoir dit. Ouais.
précision importante. Patrick Beignet, je ne sais pas si vous avez senti que nous et tout ou là sous ce texte de Jean-Bernard Puy.
Malheureusement, j'ai plus senti Puy que tout ou là.
Ah bon ? Pourquoi malheureusement ? C'est très très méchant, ça. Et alors, vous aviez quel projet ?
Un très beau projet de faire de la littérature au meilleur sens du mot.
Wow. Enfin, de faire la littérature, enfin.
Un peu d'ambition.
Allez, on y va.
Alors, le forgeron, voyant venu le moment de sa mort, appelle son fils à son chevet et lui dit « Tu te souviens de Gaspard qui t'avait offert un chaton de sa portée en te demandant de l'appeler la cloche ?» Drôle de nom pour une chatte, mais il paraît que c'était le vœu du meilleur ami de Gaspard, ce grand crétin de Ludovic. C'est lui qui avait scié la corde sur laquelle tous les dimanches, Madame Tantinet étendait son linge. C'est à cause de lui que notre abbé est devenu évêque l'année d'après. 15 jours plus tard, Ludovic est décédé, la tête fracassée par une tortue tombée du ciel, comme Eschyle. Le forgeron, à bout de souffle, s'arrêta un instant, puis il reprit. Je t'explique la suite, un peu vite parce que je faiblis. Donc, il me donne la cloche. Ne t'énerve pas, la cloche, c'est le nom du chat. Je t'explique tout de suite les conséquences. J'emporte la cloche et après je retourne chez le vieillard, le père Alfred, comme on l'appelait. À l'époque, il était plus jeune qu'aujourd'hui, le père Alfred. J'y vais avec la cloche, bien sûr, de façon à ce que les gendarmes la trouvent chez lui. Tu imagines leur tête ? Le vieux forgeron toussa, cracha, puis reprit. Chez lui, le père Alfred et sa femme, la renarde, tout le monde savait que c'était la maîtresse du curé, comme chez les Borgia, si tu vois ce que je veux dire. La renaude, on l'appelait la renarde, à cause de sa queue de cheval rousse. Le vieillard et sa femme ont vu arriver la cloche, miaulant tout son sou, toute mignonne. Ils ont craqué, du coup. Sachant très bien que tout le monde les déteste, ils sont restés surpris et aussi très stupéfaits.
On a la contrainte est parfaitement respectée. On a le très stupéfait de la fin. On a une histoire magnifique, non, Lucas ?
On a une histoire de Marcel Aimé, là.
Absolument.
C'est une nouvelle de Marcel Aimé. Parfaite. Oui.
Alors, Jacques Jouet, vous arrivez en quatrième position sur cette histoire. Je ne vous demande pas de gonfler à votre tour. Je vous demande de trouver un titre et puis peut-être vous avez un point de vue sur l'histoire.
Oui, j'ai un point de vue sur l'histoire. Enfin, pas sur l'histoire, sur la manière dont elle se déroule.
Oui.
Parce que j'ai pensé aussi à Marcel Aimé en recevant le dernier état.
De Patrick Beignet.
Donc cette situation a assez...
Comme Patrice Minet, donc.
Ce très beau personnage de forgeron,
oui.
Qui est à ses dernières heures, mais on a l'impression que le fait de raconter l'entretien...
Oui. Hein,
c'est comme s'il avait un soufflet au-dessus de son lit médicalisé. Et que régulièrement, il se donne un petit peu d'air sur ses braises et il continue. Ouais. Donc là, il faudrait, si on continuait ça, il faudrait faire de nouveaux chapitres à la suite.
Ce serait Scheherazade qui raconterait. Oui, de façon
presque infinie,
parce
que le forgeron ne va pas crever. Par contre, son fils, si j'étais son fils à l'écouter, parce que évidemment, les révélations sont quand même largement sans intérêt. Je pense que je plongerai dans un sommeil profond à écouter les révélations de la... Non, il s'appelle pas la cloche, c'est le forgeron.
Ouais. Non, c'est le chat, la cloche.
Alors en plus, il va raconter l'histoire de la cloche, qui est une chatte, visiblement, à la fin. Mm-hmm. Donc en plus, il va avoir des portées. Mm-hmm. Donc il y aura l'histoire des enfants de la cloche.
D'accord.
Les clochettes, c'est bon. Les clochettes, oui. Le roman s'intitulerait « La cloche
», ah bon,
avec un sous-titre.
Oui.
C'est en forgeant qu'on devient romancier, par exemple, quelque chose comme ça.
Pourquoi que t'as pris mon oreiller ? Pourquoi que t'as pris mes beaux souliers ? Mon pain, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur. C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as pris l'homme de ma vie simplement pour passer la nuit? Pourquoi que t'as laissé ton vieux père dans un caniveau l'autre hiver? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as mis du verre pilé dans le café du vieil Amédée dont tu as pris l'appartement une heure après l'enterrement? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute. Voici pourquoi je suis égoïste.
Elle l'a dit, elle, c'est Brigitte Fontaine. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, rime de hasard pour poème à notre façon et la critique des bouts rimés. Pour les mots et les rimes, Dominique Muller, Serge Joncourt, Patrick Beignet, Jacques Vallée, Odile Conseil et Jean-Bernard Pouy, ils ont réfléchi, travaillé et inscrit des couples de mots rimant deux à deux sur des petits papiers. 10 d'entre eux, je parle des papiers, seront tirés au sort dans un chapeau par Odile Conseil et Jacques Vallée. Alors, ils peuvent tomber sur leurs propres mots, les accepter ou les refuser, comme pour les autres couples de rimes, et ensuite, à eux d'écrire chacun un poème avec les 20 mots. Poètes d'un jour, ils seront ensuite critiqués, est-ce possible ? Mais oui, par Patrick Beignet et Serge Joncourt. Vous pouvez jouer vous aussi avec ces mots, vous écrivez vos poèmes, rubrique commentaires des Papous du jour, on sera ravis de vous lire. C'est parti, Jacques Vallée, oui c'est ça, vous plongez votre main dans le chapeau, vous mélangez les mots, mélangez bien, et vous en tirez 5 au hasard. Odile Conseil tirera les 5 autres. Alors Jacques.
Je mets mes lunettes.
C'est mieux.
Dominique.
C'est Dominique la rime ?
Non,
c'est
non, mais c'est tellement gros qu'on ne voit que...
Ah oui, on ne voit que ça.
Mes rimes sont Errol Flynn et Dégouline. Et naturellement, c'est un masculin avec un féminin.
Bah oui, c'est
elle
comme ça.
Elle
n'a
pas encore compris cette théorie des genres.
Ça vous dit quelque chose, la théorie des genres ? Alors, Errol Flynn, Dégouline, ça vous va, Odile ?
Ah oui, moi, Errol Flynn, ça me dit quelque chose. Le pirate noir.
Et alors, Jacques Vallée, bien qu'il y ait du féminin masculin, vous acceptez ?
Non, mais je prends, je trouve ça merveilleux. Puisque c'est moderne, alors donc, je suis obligé de...
Et puis, il y a un verbe, et c'est toujours très utile d'avoir
donc,
des verbes pour écrire.
Je retire un autre papier.
S'il vous plaît, oui. Non.
Manouche et bouche.
Pas terrible. Hein.
Non, c'est de qui,
c'est
ça ?
C'est Pouille, ça.
Patrick Beignet.
Patrick Beignet, oh là là, on va lui faire du mal. Vous n'avez rien entendu, Patrick, je suppose. Manouche et bouche, en tout cas la rime est parfaite.
Elle n'est pas très enthousiasmante, je dois dire.
D'accord, on n'en veut pas, on refuse.
Non, non.
Allez, un refus.
Voilà, je n'y suis pour rien.
Merci la solidarité.
Je suis très pense-pilate.
Bon, alors,
Tartarin et marin.
Oui, c'est de qui ça ?
Anonyme.
Anonyme, c'est Serge, je crois. Il n'a pas eu le temps de... Non, c'est pas vous, Serge ? Qui a écrit Tartarin et Marin ? C'est vous, Patrick ?
On va intervenir deux fois de suite, comme ça. Oui, j'ai le signe.
Alors là, je vous signale qu'on va finir la saison avec Patrick Beignet. Je ne sais pas si c'est très bien de refuser deux fois de suite.
Non, mais on va le prendre.
Nous prenons ce marin.
On va le prendre, parce que quand même... Ah, Serge, ça ne m'étonne pas.
C'est quoi ?
Clafoutis et sympathie. Naturellement, masculine, féminine.
Rien que pour vous embêter.
Nous sommes en dessous de tout. Mais en même temps, ce sont des bons mots, non ?
Ah oui, oui.
Alors après.
Mais Patrick Beignet.
Encore ?
Oui. Guignol et Rossignol.
Ah, ça
charmante.
C'est bien. Ouais, ça, c'est je me rattrape, parce que sinon.
On voit d'ici toute une histoire, déjà. Allez, un cinquième papier pour vous, et puis vous passerez le chapeau à Odile Conseil.
Parce que là, peut-être qu'elle trouvera Patrick Beignet.
Non, non. Mais il n'y a pas que lui qui a travaillé, je dirais moins.
Il a mis du chewing-gum sur le papier.
J'en tire un autre.
Tu estimes avec ça ?
Non, mais parce que, bon, Patrick Beignet, ça va.
Ah,
JB. Ah. Quand même. Tonnerre et théière.
Oui, il y a du potentiel là.
Parfait.
Voilà, on prend tonnerre, théière. Vous offrez le chapeau à Odile qui va poursuivre le tirage au sort.
Alors, le premier, Pauline et Colline. Ça n'est pas signé, c'est donc de Patrick Beignet ?
Non, Pauline, Colline, ça doit être
c'est
Serge.
De Serge. Hein.
Vous assumez, Serge ?
Oui.
C'est
Pauline
fou.
Le prénom.
C'est pas fou,
le Pauline le prénom.
Pauline, le prénom.
Ça pourrait être Pauline. Autre chose.
Et Colline, comme la Colline, quoi. Colline. C'est... Ou c'est le prénom aussi.
Ah non, c'est pas le prénom. Enfin, c'est comme vous voulez.
C'est ce qu'on veut,
comme on veut, d'ailleurs.
Jacques et moi sommes un peu réservés.
Alors, ce serait votre deuxième refus. Après, il n'y en aura plus.
Deuxième
refus. Comme ça, après, on est tranquille.
Après, on vit dangereusement.
Très bien, mettez-le de côté.
Alors, je vous dis, de la part de Jacques Vallée, Submerge et Serge.
Oh, c'est beau.
Parfait, super.
Vous diriez que la rime est parfaite, non ?
Bah oui. À peu près.
En erge. Non, parce que c'est merge normalement.
Oui, il n'y a bon, pas. Bah,
sur, bah, bah, connaissant Jacques,
il n'y a pas la personne scrupuleux.
Et bah, bah, oui, voilà.
C'est vrai. Hein, bah alors, une petite faiblesse, Jacques Vallée.
Et bah, oui.
Non, qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a peut-être pas énormément de rimes en erge.
Eh bien,
en merge. Si c'est on a possible. Deux, c'est déjà bien. Donc,
il y a asperge hein, quand même.
Oui, asperge.
Allez, septième papier, Odile Conseil.
C'est apparemment de JB. Oui. Nostalgie, aérophagie.
Ça va bah, écoutez, il de... y a un clafoutis, ça peut oui. provoquer.
Oui, c'est une rime féminine.
De toute façon, vous avez eu vos deux refus, donc c'est fini les refus.
Après.
Ne choisissez pas, hein. Oui, allez, un
je mélange, Oui. J'essaye subrepticement, certes, de choisir. Papillon et gravillon nous sont offerts par Patrick Beignet.
Ah, mais il a le sens des jolis mots, Patrick. Papillon, gravillon, c'est bien. Deux derniers papiers.
Volubilis et calice, ça vient de Serge, semble-t-il.
Ah, c'est beau. Ah, c'est bon. Ah oui.
C'est pas signé, donc c'est de toi, non?
Ah oui.
Ça t'avait bu, là ou...
je ne fais pas de réflexion. Oui, oui, oui. Je laisse tomber.
Et un dernier?
Je n'ai pas le choix.
Le sexe du
Volubilis. Bah, Volubilis et calice, hein, qu'est-ce qui vous gêne?
L'orthographe.
Oui, mais la poésie, c'est de l'oralité, quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Dominique?
Surtout à la radio,
je trouve.
Comment vous écrivez calice ou...
Mais oui, justement, j'étais en train de demander est-ce que c'était de la réglisse ou...
Oh allez, dernier couple de rimes, Odile Conseil. Mais les faites pas tous tomber.
Ça y est, j'en ai un, j'en ai
fait, là.
Divan et vlan de Jacques Vallée.
Oh, c'est hein,
bon. Divan et vlan,
c'est faible.
Pas terrible.
C'est très faible.
Ah oui, la rime est quand même divan et vlan.
Mais
en même temps, il y a une espèce de modernité qui arrive dans l'œuvre de Jacques Vallée. C'est pas inintéressant.
C'est tonique. Oui.
Ouais. On va relire cette liste de 20 mots qui sont, ma foi, très beaux. Je les relis dans le désordre comme je les ai notés. Errol Flynn dégouline. Tartarin marin, clafoutis, sympathie, guignol, rossignol, tonnerre, théière, submerge, serge, nostalgie, aérophagie, ça c'est Jean-Bernard Puy.
Ah bah,
papillon, gravillon, mais je l'ai mémorisé, ça veut dire que c'est bien. Ça. Volubilis, calice, bah, ça doit être du Serge Joncourt. Divan et vlan, c'est du Jacques Vallée. Eh bien. À vous de vous amuser avec ces mots pour écrire deux charmants poèmes.
Deux ?
Non, chacun le sien.
Retrouve avec grand plaisir, Odile Conseil, Jacques Vallée.
Le plaisir est partagé.
Mais quelle chance. On peut réentendre ces mots, ces si jolis mots, si poétiques.
Ils étaient donc 20 que voici. Errol Flynn, dégouline, tartarin, marin, clafoutis, sympathie, guignol, rossignol, tonnerre, théière, submerge, serge, aérophagie, nostalgie, papillon, gravillon, volubilis, calice, divan, vlan.
Pourquoi vous avez mis dans le chapeau Errol Flynn, Dominique Muller? C'est un personnage auquel vous pensez
d'abord,
souvent.
Je trouve que c'est un héros flamboyant. Du moins, il a joué dans que des films flamboyants.
Oui.
De se foutre des aléas de l'existence, comme ça. Et tout récemment, j'ai revu Robin des Bois avec Errol Flynn.
Errol Flynn et sa fine moustache.
Et il se joue de tout le monde. Oh, quelle désinvolture. Voilà, désinvolture.
Est-ce que c'est lui, Odile Conseil, qui vous a inspiré le plus le poème?
Curieusement, non. Il m'a plutôt gêné cette erreur.
Ah bon?
Dieu sait pourtant que j'aime ce pirate noir aussi. J'ai l'affiche chez moi. Mais bizarrement, c'est Volubilis. Je suis la première étonnée parce que si je rencontrais un Volubilis, je ne le reconnaîtrais pas. Mais voilà, ça m'a amené sur une piste avec tous les autres mots qui sont le rossignol...
Bucolique,
le calice,
quoi.
Voilà, oui. sur une piste de jardin.
Alors, disons les choses franchement, vous publiez un recueil de poèmes sous votre nom, Odile?
Non, pas du tout.
Ah bon?
Je m'appelle Violette Zimpériale.
Zimperial, c'est Zimperial. La lettre Z, votre oui. nom de famille. Oui, c'est un très bon pseudo, ça. Hein?
Ah oui.
C'est votre premier recueil de poèmes, non, Violette?
Oui, oui, je suis encore débutante, un peu timide, comme une violette, comme il se doit.
Et le titre?
Le titre du recueil, c'est un recueil de poèmes environnementaux. Hein. Je suis assez engagée dans la défense de l'environnement.
Oui.
Et donc, ces poèmes dénoncent les ravages causés à la nature par l'homme, sous le titre « La nature est un temple de vivants piliers ».
Ça commence bien.
Oui, oui.
La nature est un temple où de vivants piliers.
Oui, ça
devrait marcher.
Oui, la nature est quoi?
Est un temple où de vivants piliers.
C'est nous les vivants piliers.
Et le poème que nous allons écouter porte un titre aussi.
Oui. Mais où est donc passé le jardin des délices?
Mais elle va nous faire rêver. On a l'impression qu'on va se retrouver avec Adam et Ève au paradis. Bon.
Quelque chose comme ça.
Et vous avez fait le choix de l'alexandrin, de l'octo.
Alexandrin.
Mmh. Bien.
Au jardin des délices et des volubilis, chante le guépinçon, chante le rossignol.
Ah oui, c'est bon.
Oui, c'est frais.
C'est rafraîchissant.
Mais ça ne restera pas, rassurez-vous. On boit un doux nectar dans de précieux calices. Personne ici ne songe à faire le guignol. Jusqu'à ce jour d'avril où se pointe le beau Serge, roulant des pectoraux sous un grand pull marin. Son sourire ravageur et ses yeux bleus submergent toutes les filles du lieu. Elle l'appelle Tartarin, l'habille de baiser au goût de clafoutis, tartine de l'amour qui partout dégouline. Lui n'en peut plus, ça colle, toute cette sympathie. Qu'aurait fait à sa place un gars comme Errol Flynn?
Ah, bonne question.
Oui.
Il renverse la table, s'attaque à la théière, piétine les dahlias, saute sur le divan. Dans le jardin d'Éden, c'est un coup de tonnerre, un grand charivari, et pif et bang et vlan. Au jardin des délices, il n'y a plus de papillons. Les oiseaux ne chantent plus, pris d'aérophagie. Plus de fleurs au bord des allées de gravillons. Au jardin des délices, règne la nostalgie.
C'est bien. J'ai senti que vous étiez très attendri, Serge Joncourt, parce que vous êtes reconnu dans le personnage, non?
Non, moi, c'est les pinsons, les rossignols, ça me,
ah oui.
ça me détend, ça, me, ça évoque.
Bon, c'est un ça. Très joli poème.
Mais c'est vous... frais.
Oui.
C'est frais. Toutes les rimes étaient bien un peu croisées. Enfin, il y a une gymnastique rythmique.
Moi, je fais AB, AB.
Ah oui, ouais, c'est ça.
Je sais pas. C'est un peu dégoûtant, Brassé.
Jacques Vallée, vous jouez avec les mêmes mots, sous votre nom?
Non, je m'appelle Serge Léon.
C'est bien joli, ça, alors. C'est un...
C'est un peu toute ma vie qui défile. C'est un recueil sur mes aventures amoureuses. Et celle-ci s'appelle Nostalgie, mais je le traite quand même avec beaucoup de recul. Hein. Je parle pas de moi,
Mais on devine entre les
lignes. Chaque poème, il y aura le prénom. Et cette dame s'appelait Nostalgie.
Ah, très bien.
Ça arrive.
Le recueil aura quel titre, lui?
Les tribulations du vieux Serge.
Donc c'est au soir de votre vie, quoi.
Voilà.
On est proche du grand départ, non?
Pas tout à fait encore, mais après ce qui se passe dans le poème, peut-être.
Et vous avez fait le choix de l'alexandrin, ou pas?
Non, j'ai pris des octosyllabes.
C'est élégant.
Ah oui.
Écoutez l'histoire de Serge. Ici, l'émotion me submerge. Malgré ses airs de clafoutis, il attire la sympathie.
Oui, ça, évidemment, c'est le passage difficile.
Fascinant comme Tartarin, il prend un look de vieux marin en se croyant un Errol Flynn. Malgré ses chairs qui dégoulinent.
Comme un clafoutis, il y a une logique. Hein.
Il est épris de nostalgie, qui souffre d'aérophagie. Il la nomme volubilis quand il se penche sur son calice. Las, il n'est pas un papillon quand il court sur les gravillons, et pas non plus un rossignol quand pour elle, il fait le guignol. Ça finit en toute tonnerre. Elle l'assomme avec la théière, s'il l'entraîne sur le divan, un bon coup sur le crâne, vlan.
Ah, vlan est le mot de la fin pour deux, hein, parce qu'effectivement, vlan, on ferme
non,
la porte.
Pas,
non, pas pour vous.
Moi, c'est nostalgie, le mot de la fin.
Ah oui, exact. Oui.
Juste pour, comme ça, vous pouvez nous rappeler, l'octosyllabe, c'est combien exactement?
C'est 8.
8 à l'origine. Hein.
Oui, pourquoi vous en avez trouvé plus?
Il y en a un.
Alors, dites-moi, d'un vers.
Oh, non, je voudrais pas. Non.
Je vous ai vu compter sur vos doigts au fur et à mesure que je parlais. Il n'était même pas ému par mes poèmes, mais je trouve que c'est quand même difficile d'avoir des auditeurs comme ça en face qui comptent sur leurs doigts quand vous récitez une chose poignante.
Aussi
comme ça.
Poignante, c'est que, exactement.
J'ai pas de cœur.
Mais en fait, le sous-titre, ça pourrait être Mes râteaux, non ?
Oh, ben non, c'est pas un râteau, parce que enfin, c'est une cafetière.
Les Bourrimés, c'est un jeu des papous dans la tête sur France Culture. Et maintenant, imaginons la critique des Bourrimés. Conseil, figurez-vous que votre recueil de poèmes a déclenché une critique. C'est pas mal déjà.
Je suis très émue.
Hein, pour un premier recueil. Donc, bon, enfin, c'est pas vraiment Odile Conseil, c'est Violette Impériale. Enfin, c'est pas parce que vous vous cachez sous un pseudonyme que vous ne méritez pas la critique. Et alors, c'est Patrick Beignet. Je ne sais pas s'il signe les critiques de son nom, Patrick. On non, sait, non. Il fait des petits cachets à droite, à gauche pour améliorer l'ordinaire.
Oui, c'est pas avec ce que je gagne ici.
Bah, exactement. Ça, je le comprends tout à fait. Donc, vous travaillez dans quel journal ?
Oh, bah, c'est tout à fait avouable. C'est dans la Revue des Deux Mondes.
Très bien.
La plus ancienne revue en activité en France, je crois.
Oui. Et vous avez un pseudonyme, donc.
Oui, oui, je signe Jean-Louis Poliquelette.
Ah oui,
c'est très... élégant et discret.
Je crois que je vous ai lu déjà, d'ailleurs. Hein. Et alors, vous êtes intéressé au recueil de cette petite jeune femme ?
Oui, je ne savais rien d'elle hein, quand...
Ah, c'est un premier ouvrage.
Je me suis demandé si c'était une petite jeune femme.
Ah, je suis vieille, peut-être une grande vieille dame.
Voilà, voilà.
Savoir.
Qu'est-ce que vous écrivez sur elle et son œuvre ?
Depuis le XVIIIe siècle, la France n'a plus connu de poésie philosophique au sens plein du terme. Alfred de Vigny y aspira dans les destinées, mais le souffle lui manquait. Hugo, doué mais trop brouillon, s'égara dans ses fresques, bien que l'âne ou la pitié suprême s'approche parfois de la réussite. Au XXe siècle, Paul Valéry, s'il l'eût voulu, aurait réconcilié poésie et philosophie. Mais le voulut-il ? Déchiré entre silence et mondanité, il ne voulut pas. Or, plus encore que le poète, le philosophe est celui qui veut. Sait-il ? Il ne sait qu'autant qu'il y a quelque chose à savoir. Mais qu'il y ait quelque chose à savoir, voilà ce que la pensée d'aujourd'hui se plaît à mettre en doute. Il va de soi que je compte pour rien la poésie philosophique d'un bonne foi, qui n'est pas le meilleur d'une œuvre d'ailleurs trop prolixe.
Et vlant rien.
Dressant ce tableau quelque peu désolé, je ne cesse, en dépit des apparences, de parler de violettes impériales, qui va sans doute bientôt invalider mon analyse navrée. Elle exhibe notre misère philosophique. Elle en joue dès son titre, poids lourd baudelairien, qu'elle empoigne d'emblée comme fait un Hercule de foire. En elle, l'énergie surabonde. Elle nous délivre. Les poèmes environnementaux de Violettes Impériales appartiennent désormais et pour longtemps à notre environnement mental. Faut-il en dire plus ?
C'est magnifique, mais alors
ça, moi, si j'étais elle, je serais drôlement contente et fière. Je montrerais ça à tout le monde.
Ah oui, alors
elle en rougit, heureuse. D'ailleurs.
Je l'encadrerais au-dessus de mon lit, partout dans la maison.
Ah, c'est formidable, vraiment formidable. Pour une première œuvre, déclencher un tel enthousiasme.
Les mots manquent.
Mais le problème que j'ai eu avec son physique à imaginer, c'est que je la voyais à la fin un peu comme Anthony Quinn dans La Strada, vous voyez,
ah
en
oui.
Hercule de foire, justement.
Ah oui. Alors qu'elle a un physique des... beaucoup plus facile, quand même.
Avec des couettes.
Bon, vous, Serge Onco, je ne sais pas encore pour quelle revue vous travaillez, mais vous avez chroniqué les poèmes de Serge Léon, Nostalgie dans les tribulations d'un vieux sage. Toute sa vie en amour, quoi. Et c'est un livre intéressant ?
C'est un livre intéressant. Oui, c'est un livre intéressant.
Non, mais on vous a payé très grassement pour faire une critique ou vous avez aimé ?
Eh bien, pour tout vous dire, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Mais
racontez.
Je vous rappelle que la revue, c'est L'Implacable.
Hein. C'est ça, c'est celle dans laquelle vous travaillez, L'Implacable.
Oui, L'Implacable.
Ça va être méchant.
Je le crains, c'est un, c'est un peu notre ligne directrice, d'être implacable.
Sans la liberté de blâmer, il n'est pas délogeable.
Absolument. Tout incommode chez Serge Léon.
Ah, carrément.
Ça commence là.
À commencer par ce prénom.
Serge.
Et pour le reste, que dire de sa vision de l'amour, où tout est dévalué, avili, abîmé. C'est bien le problème chez Serge Léon, de ne pas aimer ses personnages. Et pourquoi, me direz-vous, n'aime-t-il donc pas ses personnages? Eh bien, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Ainsi, quand il se présente dans un de ses poèmes autobiographiques, que vous connaissez tous, s'il nous apparaît sous les traits d'Errol Flynn, c'est très vite pour se saborder à coups de chair qui dégouline et de pectoraux en clafoutis. Aucun amour propre dans tout ça, aucun amour. Comment est-ce possible, quand on sait de quelle lignée est Serge Léon, arrière-petit-fils d'Edgar Léon, figure de la Résistance, neveu de Raymond Léon, le fameux éditeur parisien, chez qui je viens d'ailleurs d'envoyer tapuscrit de ma trilogie autobiographique. J'attends toujours la réponse. Oui, le fameux Raymond Léon, donc, figure incontournable des lettres et de la vie intellectuelle, héros de l'avant-garde et protecteur des littérateurs, qui sans lui en serait sans doute réduit au silence. C'est donc, le fils du frère de Raymond Léon, Serge donc, qui nous confie ce cadeau miraculeux, cette rivière de poèmes sertis dans des diamants où l'esprit et le bon goût ne craignent pas d'étinceler en nous offrant des bonheurs de rimes, des amphigouries fabuleux où Rossignol rime avec guignol, sympathie avec clafoutis, quelle fraîcheur, quelle audace, pour une fois que souffle un vent nouveau sur les ruines épuisées de la poésie contemporaine. Eh bien, il faut que ce soit sur nous tous, ces chanceux contemporains. Bon sang ne saurait mentir. Serge Léon est à ce siècle ce que Hugo fut au précédent. Un mur porteur, une poutre, un tasseau, un pilier, enfin tout ce que vous voulez. Gloire à vous, cher Léonin, poète. Vivez longtemps pour nous réjouir, vivez. Et bonjour à votre tonton.
Ah oui, il y a un virage dans la critique. Il y a un tournant.
On épingle la cheveux.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Julien Doumaric. À retrouver sur franceculture.fr en podcast pendant un an pour le rattrapage et vos collections de papous. Baladez-vous sur nos pages Livres des Papous et la vie du club pour en savoir un peu plus sur les dernières parutions des écrivains de la bande, les rencontres signatures et les expos. Et puis, écrivez vos poèmes avec les mots du jour, rubrique commentaires, vos poèmes, vos questions, vos remarques ou suggestions. On se retrouve dimanche à 12h50. Au revoir. Passez un très bel après-midi bien au chaud à l'écoute des programmes de France Culture.
Quoi?